La légende dorée. Auteur Jacques de Voragine. Traduction de J.B.M. Rose. Chronologie et introduction par le révérend père Hervé Savon. Édition Garnier Flammarion. Introduction. Le titre de ce livre ne doit pas donner le change. Légende ne signifie pas ici conte ou récit fabuleux, mais simplement ce qui doit être lu. L'épithète dorée, ou plutôt d'or, n'évoque pas les embellissements fallacieux de l'imagination, mais annonce le poids et la valeur du contenu. L'auteur, Jacques de Voragine, ou mieux de Varaz, qui fut dominicain et devint archevêque de Gênes, a bien prétendu nous parler de personnages historiques et nous raconter les événements dont ceux-ci furent réellement les acteurs ou les victimes. Les restes de ces saints personnages, les reliques, les tombeaux où l'on les conserve, les miracles mêmes qui perpétuent la mission passée, autant d'attestations aux yeux de l'auteur d'une réalité concrète et palpable. D'où les scrupules qu'il manifeste, le soin avec lequel il distingue la valeur respective des récits qu'il utilise ou qu'il recopie, ses inquiétudes quand la chronologie commune, les données historiques reçues ou la simple vraisemblance lui semblent par trop violentées. Un juif vivant à l'époque de Sainte-Hélène et de Constantin n'a pu avoir un père contemporain du Christ. Le récit qui le suppose est donc suspect aux yeux de Jacques de Voragine. Il rejettera de même une tradition qui mentionne l'existence, en pleine crise arienne, d'un pape Léon inconnu par l'histoire. Le souci de vraisemblance psychologique lui fera écarter l'idée que saint Paul ait pu se déguiser pour parvenir jusqu'à saint Pierre emprisonné. D'autres fois, notre auteur prévoit l'incrédulité, les doutes éventuels et cherche à les prévenir. On admettrait difficilement les miracles de saint Germain, nous dit-il, s'il n'avait été précédé par tant de vertus. Mais si l'archevêque de Gênes s'est voulu historien et non pas mythographe, si la légende Auréa n'a pas été conçue comme un recueil de contes édifiants ou de récits fabuleux, il ne faut pas non plus s'attendre à y trouver ce que nous appelons aujourd'hui de l'histoire. Dans son effort pour discerner la valeur propre de chacun des textes qu'il démarque ou qu'il transcrit, c'est en dernier ressort à des critères théologiques que notre compilateur fait appel. Ce qu'il arrête, c'est ce qui lui semble une impossibilité dogmatique. Comment croire qu'un homme ait pu ressusciter après 14 ans? Il faudrait admettre en effet que son jugement a été différé pendant un temps si long. Saint Matthieu n'a pu avoir besoin de Saint André pour être guéri d'une maladie. Cela porterait atteinte à l'égalité qui règne dans le collège apostolique. Le caractère authentique d'un récit se mesure non sur l'ancienneté et la pureté de la tradition qu'il représente, mais sur le crédit et la célébrité dont il jouit dans l'Église. Cette authenticité est une des supériorités que notre auteur reconnaît au martyr de Saint Laurent. D'autres arguments qu'il oppose à l'éventuel sceptique sont plus surprenants, au moins pour le lecteur moderne. La preuve que saint Front, pendant qu'il s'assoupissait durant la grand-messe à Périgueux, a bien assisté aux funérailles de sainte Marthe à Tarascon, c'est qu'il a laissé dans cette seconde ville un de ses gants que l'on y conserve encore. Si maintenant l'on passe de l'examen de la méthode à la considération des résultats, c'est-à-dire des récits qui nous sont offerts, on est frappé moins encore par l'abondance du merveilleux que par la répétition des événements, la similitude des situations, la faible individualisation des différents personnages dont la vie nous est contée. Les nombreux martyrs en particulier ne semblent que des répliques assez superficiellement différenciées d'un unique modèle, d'un archétype commun. Qu'une femme mène la vie monastique sous un habit d'homme, soit sous ce déguisement accusée d'avoir fait un enfant à une fille du voisinage, se soumettre avec patience à la pénitence imposée pour ce crime supposé, ne soit reconnue innocente qu'après sa mort, voilà un enchaînement de circonstances bien extraordinaire. Et pourtant, Jacques de Voragine en connaît trois exemples. Si les bons se ressemblent si fort, que dire des méchants? Pilate et Judas ont l'un et l'autre dans leur enfance tué leur demi-frère par jalousie. Comment surtout distinguer les uns des autres ces innombrables persécuteurs cupides, impies, vomissant l'injure et le blasphème, poussant la cruauté jusqu'à la frénésie, fous de rage devant la constance des martyrs et toujours promis à une mort ignominieuse. Sans doute ces ressemblances, ces répétitions, ces invraisemblances même ne sont-elles pas marques infaillibles d'invention et de fausseté? Elles n'en restent pas moins des signes troublants qui invitent le lecteur soucieux d'histoire à un examen plus approfondi. Or, si l'on scrute les antécédents de la légende dorée, si l'on compare les récits d'âges très différents qui ont été repris, résumés ou retranscrits par Jacques de Voragine, on ne peut plus douter que les auteurs de légendiers, de recueils, de vies de saints, n'aient libéralement attribué aux héros qu'ils voulaient honorer et dont ils savaient parfois fort peu de choses, ce qu'ils trouvaient dans la biographie de quelque autre dévot personnage. On se trouve donc en présence d'un portrait type du martyr, du moine, de la vierge, de la pénitente, qui a été en quelque sorte plaqué, avec quelques modifications de circonstances, sur des figures du passé dont parfois on ne connaissait avec certitude guère plus que le nom, souvent lui-même bien déformé, quand il n'était pas oublié ou supposé. Dans de meilleurs cas, heureusement nombreux, l'histoire d'un personnage connu s'est enrichie de traits qui pouvaient avec quelque vraisemblance lui convenir. Du point de vue de la critique, la légende dorée représente donc l'étape tardive de toute une évolution, le fruit d'un long travail. Que trouve-t-on au point de départ? Des textes laconiques, secs, administratifs, les protocoles officiels du procès et de la condamnation des martyrs du christianisme. L'absence d'après, le dépouillement donne à ces comptes rendus une singulière puissance d'émotion. Le surnaturel y est tout intérieur. Suggéré contre l'intention même du rédacteur, il n'en a que plus d'intensité. Les mots sont peu nombreux, aussi ont-ils tout leur poids. Les gestes sont sobres, mais c'est toute une vie qui s'y engage. Pendant quelque temps, sensible à ce pathétique contenu, les communautés chrétiennes se sont bornées à encadrer ces documents, à les accompagner d'une présentation qui en faisait un hommage explicite à la grâce de Dieu et au courage des martyrs. Mais la piété est inventive. L'âme populaire n'aime pas la litote. Elle veut que l'on souligne, que l'on explicite. Elle aime les couleurs vives et les contrastes un peu criards. Déjà au IIIe siècle, mais surtout au IVe siècle, le christianisme devient une religion de masse, puis la religion officielle. Le souvenir des premières persécutions étant lointain et l'attention plus tiède, il fallut alors frapper l'imagination. Les récits de martyrs obéissent à cette nécessité. La rhétorique, le spectaculaire, l'horrible et le merveilleux y pénètrent à flot. Il ne faut pourtant pas s'y tromper. Pour l'essentiel, c'est la même vérité qui s'exprime. Mais maintenant, pour se faire entendre, il faut parler beaucoup plus fort. Celui que l'on disait, on doit le crier. Seul le ton et le style ont changé. Si l'on veut, on est passé de Philippe de Champaigne à Rubens. Si l'on voit bien la fonction et le sens général de ce développement, il est souvent plus difficile d'expliquer comment a pu apparaître tel thème particulier, tel épisode merveilleux ou atroce. Le procédé assez primitif qui consiste à accumuler dans une seule biographie des traits empruntés çà et là est loin de tout expliquer. Selon que l'on trouve souvent à la base des épisodes les plus extraordinaires, on est tenté de dire les plus extravagants, c'est en somme de la rhétorique que l'on a prise au mot, des métaphores qui se sont en quelque sorte solidifiées, matérialisées, des hyperboles interprétées au pied de la lettre. C'est de l'éloquence qui s'est faite histoire. Tel est, semble-t-il, le cas des saints, céphalophores, de ces martyrs qui, après leur décapitation, se redressent, prennent leur tête dans leurs mains et la portent jusqu'au lieu qu'ils veulent désigner pour leur sépulture. On a parfois pensé qu'il y avait à l'origine de ces récits des représentations imagées du saint martyr dans lequel l'artiste avait voulu indiquer la nature du supplice enduré. Et de fait, quand on a figuré volontiers saint Paul avec une épée, saint André avec sa croix, saint Barthélemy avec un couteau d'écorcheur, saint Apolline avec des tenailles, on a parfois symbolisé la décollation en montrant son résultat, le chef détaché du tronc. Mais comme ces images ne devaient tomber dans l'horreur pure et simple, et comme elles devaient suggérer une mort qui était en même temps une victoire, on a représenté le martyr debout, portant dans ses mains sa tête coupée. Mais le sens primitif de cette attitude aurait fini par s'estomper, et l'imagination populaire aidant, on aurait transformé le symbole en récit. Cette explication proposée par les bollandistes, Pape Broche et Anschenius, est ingénieure, mais manque d'appui dans les faits. Tout indique au contraire qu'ici les textes ont été antérieurs aux images, même si celles-ci ont joué un rôle important de diffusion. Il semble bien en réalité qu'à l'origine du thème de céphalophore, il y a eu des développements oratoires sur les têtes des martyrs qui semblaient encore louer Dieu et défier leurs bourreaux. Ce qui n'avait été d'abord qu'un mouvement d'éloquence a fini par apparaître comme une précision de chroniqueur. On a pensé du même coup que le saint avait dû également exprimer de cette manière posthume ses dernières volontés, en particulier sur un point qui, aux yeux de ses dévots, avait une importance particulière, le lieu où devaient être conservées ses reliques. Enfin, les mots s'accompagnent de gestes et d'enrichissement en enrichissement, on parvient au thème pleinement développé. Le saint décapité prend sa tête dans ses mains et va la porter lui-même au lieu de son futur sanctuaire. C'est ce que l'on trouve dans la vie de saint Denis, telle que nous la raconte Jacques de Voragim, ainsi que dans la légende des saints Victoria et Fuchien, ajoutée à notre recueil par des continuateurs anonymes. Tout ceci fait comprendre qu'après avoir connu une exceptionnelle fortune pendant plusieurs siècles, la légende dorée ait vu son crédit décliner rapidement dès le XVIe siècle sous les attaques conjuguées d'une érudition plus exigeante et d'une piété plus austère, défiante devant un surnaturel trop extérieur et hostile à l'exubérance et aux bizarreries de l'imagination populaire. Tout le monde cite le jugement sévère de l'humaniste espagnol Vives. Ce qu'on appelle légende dorée a été écrit par un homme à la bouche de fer et au cœur de plomb. Le français Bayet n'est pas moins acerbe quand il s'en prend à la personne même de Jacques de Voragine et estime que l'on aurait peut-être mieux fait de juger de cette prétendue sainteté par l'esprit qui règne dans son livre et qu'il sera toujours difficile de prendre pour l'esprit de vérité. Certes, historiens et spirituels ont quelques raisons de s'inquiéter devant un recueil où le merveilleux semble trop souvent étouffer le surnaturel et de reprocher au narrateur de ne reculer ni devant l'incroyable ni devant l'excentrique quand il croit pouvoir satisfaire la curiosité naïve de son public et stimuler une piété assoiffée de spectaculaire. Mais ces critiques rigoureux ne font-ils pas preuve à leur tour de quelque candeur? Ne prennent-ils pas le détail des anecdotes de la légende dorée plus au sérieux que ne le fait Jacques de Voragine lui-même? Certes, s'il s'agit de défendre contre les athées ou les protestants les dogmes de l'Église, le miracle des cloches rendues muettes par la volonté de Saint-Loup et celui du diable tenu en laisse par Sainte-Julienne seront de peu d'usage. Mais ce n'est pas d'apologétique que s'est soucié l'archevêque de Gênes en écrivant son recueil de vie de saint. C'est à des croyants qu'il s'adresse. Les événements passés dont il leur parle, il ne les prend ni pour des arguments, ni pour des preuves. Il les traite comme la manifestation extérieure d'une réalité spirituelle. C'est si vrai qu'il lui arrive de narrer tout au long une tradition dont il dénonce par ailleurs le caractère inauthentique. Pour juger avec une suffisante équité la légende dorée, il convient donc de s'interroger moins sur son exactitude historique que sur ses intentions profondes. 2. Le vrai sujet de la légende dorée est le conflit dont Dieu et l'esprit du mal sont les protagonistes et dont l'homme est à la fois le terrain, l'enjeu et l'acteur, subordonné sans doute, mais irremplaçable. Ce qu'il y a de visible et donc d'historiquement saisissable dans cette lutte n'est que le reflet ou mieux l'extériorisation du drame véritable qui est de soi spirituel et invisible. L'origine, le déroulement, les lois et l'issue de cette crise qui durera autant que ce monde, ne sont connus ni par les données sensibles, ni par les raisonnements que l'on peut y fonder, mais par la foi seule. C'est ce qui explique bien les aspects déroutants pour nous de la méthode de Jacques de Voragine. Les faits du passé, au fond, ne lui apprennent rien. Ils reçoivent toute leur lumière du dogme auquel il adhère. Bien que le mystère de l'incarnation lui interdise de négliger complètement l'histoire, celle-ci n'est pas pour lui un terme, elle n'est qu'un moment nécessaire de l'épopée qu'il veut transcrire. Certes, le lecteur moderne retrouve difficilement dans la légende dorée ce qui lui fait attendre le mot « épopée ». C'est qu'y font trop défaut l'élaboration littéraire, le souffle, le génie. Aussi, la puissance d'horreur et d'admiration qu'avaient ces récits pour des lecteurs plus neufs s'est-elle usée au cours des âges? On ne recherche plus guère aujourd'hui dans le livre de Jacques de Voragine que le charme candide et désuet que l'on retrouve encore dans l'imagination populaire des siècles passés. Il est vrai que par bien des aspects, la légende dorée appartient authentiquement à la littérature populaire. Le rôle de copiste fidèle auquel l'archevêque de Gênes a voulu se tenir accentue ses caractères. Presque à chaque page du recueil, le spécialiste de la culture de masse trouverait une matière toute prête pour des bandes dessinées propres à séduire encore le lecteur d'aujourd'hui. On en juge par un simple exemple. Un homme, parti le jour même pour un long voyage, s'aperçoit d'un oubli et retourne le soir à la maison. Rentrant dans la chambre conjugale, il aperçoit dans la pénombre sa femme étendue auprès d'un autre homme. Il poignarde le couple infidèle sans lui laisser le temps de se reconnaître et sort fou de rage. Qui rencontre-t-il après quelques pas? Sa femme, qui rentre chez elle et qui est bien surprise de le trouver ainsi hors de lui. Qui a-t-il donc tué? La triste vérité éclate bientôt. Les parents du mari sont arrivés inopinément chez leur fils en son absence. Comme ils étaient fatigués de la route, leur bru leur a donné le seul lit qui se trouvait préparé. Et voilà comment Julien, c'est notre héros, est devenu parricide. Mais comme Dieu tire le bien du mal, ce sera le début d'une vie de pénitence et de sainteté pour le jeune homme, ému de son forfait involontaire, et pour sa femme qui se laissera assez facilement convaincre. Cette pittoresque histoire a d'ailleurs trouvé déjà des illustrateurs. Citons au moins la prédelle d'un retable peint par Masaccio pour l'église Santa Maria del Carmine à Pise. On peut la voir aujourd'hui au musée de Berlin d'Alem. Mais ce n'est pas seulement par ces hasards étonnants, par ces rebondissements de l'action, par ces coups de théâtre que la légende dorée pouvait séduire les lecteurs naïfs. Elle répond encore à leur goût permanent pour les oppositions bien tranchées, pour la division de l'humanité en une zone de ténèbres et une zone lumineuse que sépare une ligne de démarcation rigide. Les bons y sont bons sans restriction. Ils se voient confrontés à des méchants qui poussent leur méchanceté jusqu'à la caricature. Les nuances, les distinctions sont exceptionnelles. Judas et Pilate sont dès leur naissance marqués du signe de la cruauté, mauvais fils et mauvais frère. L'empereur Julien n'est pas seulement l'apostat que nous connaissons, c'est encore un sorcier et un voleur. Celui qui a un vice doit les avoir tous. Des contrastes aussi criants exigent une justice immanente. Sans elle, il serait insoutenable pour le lecteur. Jacques de Voragine obéit aussi à cette loi de la littérature populaire. Certes, les bons sont soumis à de cruelles épreuves, qui le plus souvent se terminent par une mort violente. Mais il y a en eux tant d'énergie, on dirait presque tant de fureur sacrée, qu'ils semblent à peine sentir les ongles de fer qui les déchirent, le feu qui les brûle, les roues qui les broient. Parfois même les instruments du supplice trompent les espoirs des tortionnaires ou encore se retournent contre eux. Les roues se brisent, le feu s'écarte des martyrs pour consumer les bourreaux, les plaies se cicatrisent soudain, les membres retrouvent leur intégrité. Aussi, quand le martyr finit par expirer, c'est en quelque sorte par son libre choix et dans une victoire visible éclatante. Les persécuteurs, quant à eux, s'ils ne se convertissent pas, finissent dans la rage impuissante et les souffrances ignobles. La femme qui avait porté une accusation atroce contre son fils est frappée par la foudre à la prière de Saint André dans le tribunal même qui venait de condamner l'innocent. Les supplices infligés à Sainte Christine sont atroces, mais largement et immédiatement vengés. Son père, devant qui elle comparaît, périt misérablement au cours du procès, ainsi que le juge qui lui succède. 1500 personnages meurent brûlés par les flammes qui auraient dû chauffer au rouge une roue destinée au supplice. Un magicien venu pour confondre Christine succombe aux morsures des serpents qu'on réservait à la sainte. Celle-ci éborgne son dernier tortionnaire en lui crachant au visage la langue qu'il vient de lui faire couper. Si ces tableaux d'horreur abondent, c'est que la grâce, comme la vengeance de Dieu, doivent devenir sensibles. La légende dorée satisfait ainsi au matérialisme spontané de la foule. Le surnaturel s'y voit, s'y palpe. Il n'existe, pour ainsi dire, jamais à part du merveilleux. Cette tendance s'exprime souvent avec beaucoup de lourdeur. Ce n'est plus une simple étoile qui guide les mages vers la crèche, cette étoile a la forme d'un enfant. Une hostie est changée en doigt pour convaincre une incrédule. Cette pente matérialiste se retrouve dans l'idée que Jacques de Voragine se fait des preuves, des argumentations. Il ne s'agit pas de raisonner ni même de rendre sensible au cœur, mais de faire voir, de faire toucher. Dans la légende de Sainte Marie-Madeleine, nous lisons que Saint-Pierre, afin de convaincre un prince de bonne volonté, ne trouva rien de mieux que de l'emmener avec lui en Palestine pour lui montrer tous les lieux où Jésus avait prêché, guéri, souffert, et ceux qui avaient été le théâtre de sa résurrection et de son ascension. Le héros qui est au centre de cette épopée populaire, c'est avant tout le martyr. Comme nous l'avons dit, ce qui apparaît dans les légendes dorées, c'est le type, ou, si l'on veut, l'idée du martyr. Les nuances individuelles, les différences psychologiques sont inexistantes. Ces hommes et ces femmes se ressemblent à s'y méprendre et ne se distinguent finalement que par quelques péripéties accessoires de leur légende, par leur nom et par le cadre historique et géographique très large où on les situe. Cela n'a rien d'étonnant si l'on prend bien garde à l'intention de Jacques de Voragine. Ce qu'il veut mettre en lumière, c'est ce qui, dans le martyr, est surhumain, ce qui est par conséquent au-delà de toutes les particularités. C'est à ce dessein que tout est subordonné. C'est dans ce but que tous les détails du récit sont concertés. Cela ressort assez clairement des épisodes essentiels que l'on retrouve à peu près dans tous les récits de martyrs et dont l'ensemble constitue ainsi un schéma bien établi. Tout commence naturellement par une persécution. Elle est généralement extrême, par la sévérité comme par l'ampleur. Tout le monde craint, tout le monde fuit, la dénonciation sévit. Le héros, lui, affirme paisiblement sa foi. Il est donc arrêté et traduit devant le juge. Nous sommes loin ici des actes les plus anciens qui nous permettent de remonter à peu près aux procès-verbaux originaux. Ce n'est plus un échange, bref, de questions précises et de réponses laconiques. Ce sont de part et d'autre de longs discours où règne la rhétorique. Parfois, de véritables disputes théologiques s'engagent. Lors de son interrogatoire, saint André démontre par 5 arguments que Jésus a souffert volontairement. Il développe ensuite, à l'aide de 5 nouvelles raisons, la convenance et la nécessité du mystère de la rédemption. Le plus souvent, le dialogue prend un tour plus violent. Aux cruelles menaces des juges répondent les sarcasmes et les injures des martyrs. Ces véhéments sont de règle. Saint Vincent fait grief à l'évêque qui est jugé avec lui de répondre avec trop de douceur aux questions qui lui sont posées. Pour comprendre cette violence, il faut se souvenir qu'elle s'adresse en fait aux yeux de Jacques de Voragine et de ses lecteurs, aux puissances du mal, aux démons, dont le persécuteur humain n'est plus que l'instrument docile. Mais c'est évidemment au moment même du supplice que le martyr va s'élever au-dessus de l'humanité. Le narrateur n'épargne rien pour nous le faire sentir. Les procédés qu'il emploie à cet effet ne varient guère. Le principal et le plus constant est celui de l'accumulation. Chaque condamné se voit infliger différents genres de tortures par des bourreaux extraordinairement cruels et brutaux. La durée de ces tourments est telle que les tortionnaires en sont eux-mêmes lassés. Parfois, la tradition a réuni sur une même tête un tel nombre de supplices qu'il faut que le martyr se déroule en plusieurs épisodes que peuvent séparer plusieurs jours, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Les bourreaux se fatigue, mais point la victime. Celle-ci oppose aux cruautés les plus atroces une endurance qui va jusqu'à l'insensibilité, parfois jusqu'à l'invulnérabilité. Quand les instruments des tourmenteurs ne se brisent pas sur le corps des martyrs et ne sont pas mis en pièces par le feu du ciel, comme dans la Passion de Sainte Catherine, les plaies qu'ils ont faites se referment avec une rapidité merveilleuse. Les membres arrachés reprennent miraculeusement leur place, les bourreaux peuvent recommencer. Quant au martyr, on ne peut pas dire qu'il a retrouvé ses forces, il ne les a jamais perdues. On comprend après tout cela que le grand problème pour le narrateur, c'est d'aboutir avec quelque vraisemblance au dénouement indispensable, la mort du héros. Le récit en est généralement bref, mais souligne l'échec final du persécuteur. Celui-ci, après avoir usé tous les supplices les plus raffinés, renonce à fléchir le courage du martyr. C'est comme par un aveu d'impuissance qu'il l'abandonne à la décapitation. Le héros de la foi, ayant accompli sa mission jusqu'au bout, peut enfin accepter de mourir et de recevoir la couronne qui lui est préparée. Il arrive, on a vu, qu'après l'exécution, il se redresse, prenne sa tête coupée dans ses mains et achève ainsi la déroute de ses tortionnaires. Tel est le schéma romanesque, pathétique et naïf dont les passions de la légende dorée nous donnent des exemples assez achevés. 3. Même quand on a tiré au clair les intentions du rédacteur de la légende dorée, on n'a pas pour autant tranché le procès qui, depuis 4 siècles, lui est intenté sur le fond. Ces fragments d'épopée populaire peuvent-ils être vraiment considérés comme fidèles à l'esprit du christianisme? Le surnaturel n'y est-il pas détruit par le merveilleux? L'imagination n'y distance-t-elle pas de la foi? Cette foule de héros, de thaumaturges, d'intercesseurs, d'archanges, ne relègue-t-elle pas le Christ à une place qui, pour être honorable, n'a plus rien d'unique? Ce sont de graves questions qui, au-delà de la légende dorée, mettent en question tout un aspect du catholicisme. Il y aura toujours des puritains pour briser les images et le scandale qui explique en partie ce geste brutal ne doit pas être pris à la légère. Et pourtant, les iconoclastes ont tort de se réclamer de l'esprit de l'Évangile. C'est que le christianisme est étranger à tout ésotérisme. Il s'adresse à tous, tout en ne pouvant être épuisé par personne. Cependant, la capacité spirituelle et intellectuelle des auditeurs est diverse. Tous, même les plus affinés, ont besoin que l'invisible se rende en quelque sorte visible. C'est là le sens de l'incarnation. Mais la visibilité de l'objet est relative à l'organe qui perçoit. Le Christ s'est donc fait tout à tous. Il se fait, comme le dit Origène, enfant pour les enfants, vieillard pour les vieillards, savant pour les savants, simple pour les ignorants. Les mêmes formules de foi, les mêmes récits, les mêmes rites sont proposés à tous les chrétiens. Mais chacun les comprend au niveau où il se trouve. Ce faisant, il se rend peu à peu capable de recevoir davantage. Il en est de la légende dorée, comme des scènes qui animent les vitraux des cathédrales. Elle atteint directement l'auditeur ou le lecteur le plus simple, mais elle recèle un principe de dépassement. Le sensible, le merveilleux, n'est là que pour servir de point de départ à la méditation. Ce goût pour le matériel, pour le palpable et le visible, dont nous avons donné plus haut des exemples, n'est qu'un point de départ. En fait, la légende dorée veut être une longue entreprise d'éducation du regard. Il s'agit d'apprendre à voir ce qui se cache sous ce monde sensible, de révéler les forces du bien, de découvrir les puissances mauvaises dont l'affrontement est sous-jacent à toute existence humaine. Bien des épisodes diaboliques qui font sourire le lecteur moderne devaient avoir valeur d'exorcisme pour le public auquel s'adressait Jacques de Voragine. C'est vaincre l'esprit du mal que de le démasquer. Plus encore que le dualisme, ce qui caractérise l'univers de la légende dorée, c'est le mouvement, le passage incessant d'un monde à un autre. L'invisible est toujours prêt à devenir visible. Le ciel et l'enfer s'affrontent. Le vivant peut accéder au monde des morts. Les morts revivent. Les anges descendent et les hommes montent. Ces merveilleux échanges, ce mélange des plans, cet homme qui n'est jamais laissé en repos, mais toujours ou tiré vers l'abîme ou emporté au-dessus de lui-même, tout cet univers frémissant a trouvé une dernière expression, tardive mais géniale, dans l'art baroque, qui mit au service de la piété populaire ses recherches les plus audacieuses et ses raffinements les plus savants. L'œuvre la plus célèbre de Balthasar Neumann n'est-elle pas une église de pèlerinage dédiée aux 14 intercesseurs? L'intérêt de la légende dorée pour la connaissance de notre culture européenne déborde en effet très largement le siècle où elle fut écrite. Jacques de Voragim y a recueilli bien des pages, pas toujours les plus profondes, il faut le dire, de la littérature chrétienne des 4e, 5e et 6e siècles. Mais surtout les récits que nous a transmis l'archevêque de Gênes ont vécu dans la conscience des peuples de l'Occident. Ces légendes se sont mêlées à l'histoire, leurs héros sont un peu devenus les génies tutélaires de nos cités. Saint-Denis à Paris, Saint-Ursune à Cologne, Saint-Mathias à Trèves, Saint-Marc à Venise, pour ne citer que ces quelques noms, ont vécu d'une vie nouvelle à laquelle des traditions locales, des institutions et surtout de nombreuses œuvres d'art rendent encore aujourd'hui témoignage. Ce sont bien souvent les récits recueillis par Jacques de Voragine qui nous livrent la signification d'un vitrail, d'un retable ou d'une statue. Cette importance historique de la légende dorée exigeait une présentation intégrale de ce texte. On n'a donc omis ni les étymologies données par Jacques de Voragine au début de chaque légende, ni les longues pages de distinctions scolaires que certains traducteurs ont jadis jugées trop rebutantes pour leur public. Nous pensons que le lecteur d'aujourd'hui doit pouvoir, au contraire, grâce aux différents aspects de ce texte, pénétrer l'esprit d'une époque qui est déjà lointaine, mais dont nous sommes, à bien des titres, les héritiers. Hervé Savon. Note sur le texte. La traduction de l'Abbé Rose, publiée à Paris en 1900, se recommande par le double souci de rendre le texte dans son intégralité et de le suivre aussi fidèlement que possible. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour cette collection. Nous avons indiqué en note quelques corrections qui nous ont paru nécessaires. L'Abbé Rose avait été empêché par la mort de mettre la dernière main à son travail.